19h-20h.
Tu vas au boulot, tu marches seul.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Bonsoir à tous et à toutes pour votre émission mensuelle féministe Histoire de femmes. Vous nous retrouvez tous les premiers mercredis du mois de 19h à 20h30. Alors oui, j'ai bien dit féministe. Et notamment en ce mois de mars qui va avoir déferlé une vague violette, je pense que quelques petits rappels sont utiles. Alors le féminisme, je ne vais pas vous dire quelle est ma définition, parce qu'on va m'accuser éventuellement de mettre ça à ma sauce. Non, non, je suis allée voir dans le dictionnaire. Le Larousse, je cite, « courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. » Égalité. Le petit Robert, parce que mieux vaut deux définitions qu'une seule. Doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Nous sommes donc bien féministes et non pas misandres, et je ressors le dictionnaire, misandres selon le Larousse, qui éprouve du mépris, voire de la haine pour le sexe masculin, qui témoigne de ce mépris. Donc l'équivalent de la misogynie chez les hommes. Le petit Robert, qui éprouve manifeste de l'aversion pour les personnes de sexe masculin, donc ça s'oppose à nouveau à misogyne ou misogynie. Donc, moi, du mépris, de la haine, de l'aversion pour les personnes de sexe masculin, bah non, non, moi je les aime les hommes, hein. Pas tous, mais je les aime les hommes. Et alors ceux... et celles, parce qu'il y en a malheureusement, qui n'ont toujours pas compris. Ne pas être féministe, ou alliée, diront certaines, on pourra revenir sur ce débat un autre jour, eh bien ne pas être féministe, en fait, c'est être opposée à l'égalité. Alors toi, qui nous écoutes, peut-être, par inadvertance évidemment, alors bravo, tu viens d'obtenir ta médaille de masculiniste. Et je reprends mon dictionnaire. Selon le Larousse, le masculinisme est une idéologie d'origine nord-américaine, regroupant une myriade de mouvements principalement présents en ligne qui, en réaction au mouvement féministe dont ils se disent victimes, alors ça c'est pas dans le dictionnaire, et sous couvert de dénoncer toutes les formes de discrimination, véhiculent des thèses sexistes, complotistes et réactionnaires à travers un discours misogyne et ou patriarcal bien rodé. Si vous pensez à des gens, vous avez raison. Selon le petit Robert... c'est un ensemble, donc je rappelle, le masculinisme est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment de ceux des femmes. Alors, les masculinistes, si vous nous écoutez, figez le camp, ou bien écoutez et soyez ouverts et changez d'avis, quoi. On sait jamais, je veux dire, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc si vous n'êtes pas des imbéciles, mais si vous êtes masculiniste, alors vous êtes des imbéciles, enfin, bon, je sais plus, je suis perdue, voilà. Bon, promis, j'arrête avec mon dictionnaire. Alors ce soir, nous recevons, comme chaque mois, un ou une invitée. Ce soir, c'est une invitée que vous allez découvrir dans quelques minutes et que vous retrouverez tout au long de l'émission. Quelques mots pour la présenter, enfin, dire quelques mots sur la raison pour laquelle elle est là, sans vous dire qui elle est pour l'instant. Un média, des podcasts, des il, des elle, des yel, une aventure née d'un besoin... un besoin sans cesse renouvelé, une bulle de positivité. Diverses chroniques ponctueront les échanges avec notre invité, comme d'habitude. Nous écouterons Annie à 19h30, puis à 20h, et nous terminerons l'émission avec des extraits de lecture proposés par le collectif Nous Toutes 85. Tout au long de l'émission, il y aura des pauses musicales dont Alexandra va tout de suite nous dire quelques mots. Bonsoir Alex.
Oui, bonsoir tout le monde. Les petites pauses musicales, elles seront féministes.
Ah bon?
Et il y aura aussi une chanson qui sera dédicacée spécialement aux mascus.
Waouh, voilà. Wow. Donc, pourquoi on pense à eux en fait?
Mais... Difficile de les oublier, c'est ça le problème.
Tu m'étonnes. Donc tu vas nous faire découvrir des trucs nouveaux.
Oui, alors c'est tout nouveau, hein, ça vient de... Sauf la dernière chanson, là, on va faire un petit hommage à Roberta Flack qui est décédée la semaine dernière. Donc une chanteuse de soul américaine. Et sinon, pour le reste, c'est que des nouveautés et ça vient des régions des Pays de la Loire. Et ça envoie.
C'est super, ouais. Super. Bonsoir Annie.
Bonsoir Audrey.
Alors toi, tu vas nous présenter donc des chroniques, comme je l'ai dit, à 19h30 et à 20h. De quoi vas-tu nous parler?
Tout à fait.
Je suis sûre que tu as des trucs super drôles et super sympas à nous annoncer.
Oh, bah oui, comme d'habitude. Alors ce soir, on parlera éducation catholique et chirurgien destructeur. Avant d'évoquer les énormes problèmes de priorisation des législateurs français, pour la chronique justice, puis pour la chronique sexisme, on parlera sport et pognon, d'un tour du monde chiffré et des actions pour le 8 mars.
Eh bien, c'est très bien tout ça. Je voudrais en profiter juste pour un petit rappel. La radio Graffiti vend un kit de soutien. Ce kit est à 20 euros. Il y a un écusson thermocollant pour mettre, par exemple, sur une casquette, un blouson ou une doudoune, un sticker, un magnète. Il y a 100 kits qui sont en vente. Et c'est sur la boutique en ligne. C'est via LOSO. Je mettrai le lien sur les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle qu'on a une page Instagram, un compte Instagram, que nous avons une page Facebook et bien sûr sur le site de la radio pour l'émission, dans le cadre du résumé de l'émission de ce soir. Donc, sur LOASO, Association Graffiti, voilà pour le kit.
Ah oui, alors dans le kit, il y a autocollant, un petit patch. À coudre.
Ouais. Ouais. Et à magnète.
Bon. Et à magnète. Et à magnète. Ouais. Et bon, alors si vous n'en voulez pas, hein, vous pouvez faire simplement un don.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, quand vous arrivez sur LOASO, ça vous propose soit l'achat du kit, soit un don du montant que vous voulez. Et chaque euro est précieux pour nous, quoi.
Ou adhérer et devenir bénévole chez Graffiti. Vous pouvez aussi.
Oui, on vous accueille à bras ouverts. Hein. Parce qu'on est vachement sympa. Nous et toute l'équipe de Graffiti, pas seulement nous, bien sûr. Alors, je reviens vers notre invitée. Bonsoir Pauline.
Bonsoir Audrey.
Merci d'être des nôtres ce soir.
Merci de l'invitation.
C'est avec plaisir. Alors, écoute, je te laisse nous dire pourquoi tu as eu envie de venir ou accepter de venir nous voir ce soir. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu fais qui a un rapport avec toi, qui tu es, et puis avec le féminisme, avec les femmes, et pas que?
Ok. Eh bien, en mai de mai dernier, depuis mai de mai dernier, je suis en arrêt maladie et je recherche des contenus queer et positifs pour me remonter le moral. Parce que j'en ai marre des contenus queer misérabilistes, c'est toujours le personnage queer qui meurt en premier ou à qui arrive beaucoup de problèmes. Et moi, je cherchais vraiment des contenus positifs. Et j'en trouvais pas.
D'accord.
J'en trouvais pas de prime abord. Ce que j'avais déjà vu, j'avais déjà tout vu. Enfin, vraiment, j'étais arrivée au bout. Et du coup, j'ai eu la chance de participer quelques minutes sur une radio. Et là, j'ai eu une vraie révélation. J'ai adoré l'expérience. Et j'ai tout le matos à la maison pour enregistrer, parce que je suis une chanteuse et je suis mariée à une musicienne aussi. Et donc du coup, j'ai décidé de me lancer.
Je ne savais pas que tu chantais.
Ça fait un moment, ouais.
Tu as poussé la chansonnette à un moment pendant l'émission.
Aujourd'hui, je parle. Et du coup, j'ai décidé de lancer ce podcast qui s'appelle « Ex-hétéro, etc. ».
Et dans le premier, sauf erreur, tu es toute seule.
Tout à fait.
Et tu expliques en développant ce que tu viens de nous dire, en fait.
Exactement.
Pourquoi ce podcast, en fait.
Exactement. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que, en fait, toutes les questions que je pose à mes invités sont les mêmes. Et avant de les proposer aux invités, j'avais envie de participer moi-même à l'exercice, en fait. C'est des questions qui sont pas forcément simples de prime abord. C'est important de s'y préparer un petit peu. Par exemple, une de mes questions, ça va être quel a été ton coming out le plus positif ? Ben, ça mérite réflexion. Ou est-ce que tu pourrais nous parler d'un contenu culturel queer que tu aimes beaucoup ? Quelque chose qui t'a vraiment inspiré. Ou par exemple, est-ce que tu peux nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ton orientation sexuelle ? Et je pense que c'est des questions qui nous importent et qui nous touchent toutes et tous, personnes LGBTQIA+, aujourd'hui.
Et quand tu parles de coming in, justement, c'est dans ta première émission, dans ton premier podcast, tu parles du tien.
Oui.
Et est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ou pas ?
Oui, bien, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Du coup, moi, je suis une personne out, donc je dis que je suis une personne LGBTQIA+, et j'en suis fière, et je veux montrer ce bonheur que je vis avec mon épouse autour de moi. Et en fait, mon coming out a été assez drôle à vivre, en fait, parce que donc j'ai un suivi avec ma psy depuis quelques années, ça se passe très bien et tout. Et puis un jour, elle me dit, mais les personnes qui ont vécu les mêmes traumas que vous dans l'enfance, en général, ne sont pas hétéros. Est-ce que vous êtes sûre de votre hétérosexualité ? Et là, j'ai bloqué. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai grandi dans la communauté LGBTQIA+, depuis toujours. J'étais toujours intéressée par ces questions, mais jamais je me sentais concernée. J'ai accompagné, par exemple, à l'adolescence, ma meilleure amie qui a ressenti son attirance lesbienne, et je l'ai accompagnée dans tout son processus de coming in, coming out, etc. Mais j'ai jamais pris pour moi, tout comme j'ai été bénévole dans une association Le Refuge, mais j'ai jamais pris pour moi, en fait. On m'a même dit, mais toi l'hétéro, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, quand j'étais en séance de psy, tout ça s'est revenu dans ma tête d'un coup, et instinctivement j'ai dit, ben non, je suis pan. Et pansexuel, ça veut dire que je me ressens attirée par les personnes, peu importe leur genre et peu importe leur sexe. Et donc, je me suis rendu compte en quelques secondes que j'étais pansexuelle et panromantique.
Alors, tu nous expliques pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, pansexuel, tu viens de le dire, mais panromantique.
Ouais, c'est la même chose pour les émotions, les sentiments.
D'accord. Okay. Alors, ça m'a interpellée, ce que tu viens de dire et que tu avais aussi dans ton podcast, que c'est cette phrase de ta psychologue, donc, qui a dit que les personnes qui avaient vécu des traumas comme les tiens, alors tu n'es pas obligé de nous en parler, bien sûr, mais n'étaient en général pas hétéros. Alors moi, ça m'a interpellée, je me suis dit, mais de quoi elle parle ? Je ne sais pas si tu veux répondre, puis tu n'es pas obligé de nous parler de toi non plus, ça peut être de façon générale. Enfin, est-ce que tu sais à quoi, est-ce que tu peux nous dire ou pas ?
À quoi elle faisait référence ?
Oui, à quoi elle faisait référence ?
Alors moi, j'ai vécu des violences sexuelles dans l'enfance.
Ouais.
Voilà.
Et de ça, elle, dans son travail, à travers son expérience,
tout à fait, son expertise,
nombre de personnes ayant vécu des violences sexuelles dans leur enfance ne sont pas hétérosexuelles.
Tout à fait.
D'accord. Alors là, moi, je l'apprends. Vous, je sais pas.
J'en avais pas connaissance non plus.
Non, du tout.
Je pense qu'il faut pas en faire une
généralité. Tout à fait. C'est son expertise à elle dans notre territoire, dans notre dans notre bulle aussi, quoi. C'est pas une donnée.
Nationale. Elle t'a poussé à réfléchir. Elle t'a pas dit vous n'êtes pas hétérosexuel parce que j'ai bien compris. Hein,
bien sûr.
Mais c'est étonnant ça. Je suis tombée des nues et. À creuser.
Ouais. Oui, je pense que c'est vraiment un sujet à creuser, tout à fait.
Toi, tu connais d'autres personnes dans ce cas ?
Oui.
D'accord. Oui, ok. Oui. D'accord. Tu as parlé du refuge,
oui.
De l'association, donc tu as été bénévole pour eux, donc je connais aussi cette association. J'ai travaillé avec eux, mais pas en tant que bénévole, mais sur le plan professionnel, pour faire connaître l'association. Tu n'y es plus ?
Alors, c'était quand j'habitais sur Montpellier.
D'accord.
En fait, j'étais directement à la fondation. Et c'était les 10 ans de la fondation Le Refuge, et j'ai accompagné le premier spectacle du refuge, où j'ai été donc prof de chant. pour les personnes qui étaient accueillies à cause de l'homophobie de leur entourage. Et on a monté donc, le premier spectacle du refuge de la Fondation à Montpellier.
D'accord.
J'ai été bénévole sur l'accueil, les temps d'accueil pendant 2 ans à peu près.
Il y a eu un film dont j'ai oublié le titre qui a été projeté.
Valérie Le Mercier. Je crois.
Je sais plus. Peut-être.
Du refuge.
Qui raconte en fait une histoire qui pourrait être celle du refuge, qui est fictive, mais qui correspond à ce que fait le refuge. Et justement, il y a eu un événement à La Roche avec la projection du film au cinéma et avec un débat derrière et des gens du refuge qui sont venus. Et c'était vraiment passionnant. Et ce film est bouleversant. J'arrive pas à me rappeler le titre.
On va le trouver.
Sinon, les auditeurs et les auditrices cherchent.
On rappelle un peu ce que c'est le refuge.
Oui,
donc,
bien sûr.
Il y a un refuge à La Roche-sur-Yon. Donc, ça permet aux adolescents, enfin aux adolescents, aux jeunes adultes qui se sont fait virer de chez eux.
Aux jeunes adultes.
Du fait de leur homosexualité
ou du fait de l'homophobie de leur entourage
ou de la transphobie,
rejet familial,
sont mis à la porte,
tout à fait.
Et donc c'est une association qui recueille ces jeunes adultes,
jeunes adultes.
Il y a aussi des placements de mineurs aussi sur décision judiciaire à partir de 16 ans.
Peut-être pas dans toutes les structures,
tout à fait.
Oui.
Mais au niveau national, ça se fait. Oui.
D'accord.
Et ils ont d'ailleurs aussi une campagne avec des images chocs qui sont parlantes, touchantes, qui remuent et qui... L'Arche de Noé, voilà. C'est ce film qui n'est pas très vieux. Hein, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant que je l'ai vu.
2023,
oui. Oui, c'est ça, voilà. Ça, vraiment, je conseille ce film à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Alors, tu parles de queerness. Hein,
tout à fait. Hein,
c'est le terme que tu utilises, donc qui englobe, comme tu nous l'as dit, tous les LGBTQIA+.
Tout à fait.
Est-ce que tu veux bien rappeler à nos auditeurs et nos auditrices ce qui se cache derrière cet acronyme un peu long?
Alors, je vais l'écrire en même temps pour être sûre de ne pas louper chaque lettre. Alors, donc nous avons le L des lesbiennes, le G des gays, le B des personnes bi, le T des personnes trans et non binaire, le Q des personnes queer, le I des personnes intersexes, le A des personnes asexuelles et plus pour toutes les autres formes de sexualité ou de genre. Et on est bien sûr les deux.
Voilà. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu mets derrière le mot queer ?
Alors pour moi, le mot queer, c'est toutes les personnes en dehors de la cis-hétéro-normativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat.
Ah bon ? Décidément, je trouve que on est un peu méchante ce soir. Hein.
C'est mérité, je pense.
J'ai l'impression que je suis au bon endroit ce soir.
Je crois qu'il y en a derrière la porte là, qui nous écoute. Et, on avait fait une émission sur le masculinisme une fois. C'est avec un jeune invité, un jeune homme, non pas un masculiniste, non. Un jeune homme qui avait découvert sur les réseaux ce qu'était le masculinisme à travers des vidéos et tout, et qui était très choqué et qui avait voulu venir nous en parler à la radio, quoi. D'autant que ça touche beaucoup, essentiellement, les jeunes.
Hein.
Et donc, pour revenir à ton podcast, donc tu as commencé, tu disais, il y a un an et demi.
Au mois de mai, ça fait pas encore un an.
Ça fait pas encore un an. Et donc, au début, tu savais pas trop où tu allais, j'imagine.
En fait, j'avais vraiment envie de garder toujours la même trame.
Oui.
Donc, j'ai gardé encore aujourd'hui, j'en suis au 16 ou 17e épisode et j'ai toujours les mêmes questions, c'est important pour moi.
Mais il n'y a pas de régularité dans tes podcasts.
Non, c'est très important. C'est aussi important pour moi, en fait. Il n'y a pas de régularité dans le sens où j'ai besoin de respecter mon corps malade. Et j'ai besoin de respecter aussi le planning des invités. Enfin voilà, je suis complètement indépendante. Je ne gagne pas d'argent. Je suis bénévole sur ce programme. Et voilà, je respecte mon rythme, celui des invités. Et comme ça, sans pression aucune en fait. Et ça correspond tout à fait à ce dont j'ai besoin. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de retour sur ce sujet.
Et tu as une idée de ton audience ? Non, je ne parle pas en nombre, hein, mais je veux dire type d'audience. Est-ce que c'est forcément des gens qui sont LGBTQIA+, ou bien est-ce que c'est plus étendu ? Est-ce que tu sais ou pas du tout ?
Alors, c'est officiellement illégal de noter si on est LGBT, enfin de demander l'orientation sexuelle des personnes dans les sondages par exemple, oui. ou dans les statistiques démographiques, par exemple, sur les plateformes.
Par le bouche à oreille peut-être.
Voilà, le bouche à oreille, oui. Je sais que je suis un peu plus écoutée dans notre communauté, dans notre famille choisie, comme j'aime l'appeler. Mm-hmm. J'aime être un outil pédagogique parmi tant d'autres aussi.
D'accord.
Et je sais que mon podcast a permis aussi aux personnes qui ont été interviewées déjà de faire un travail sur eux de leur queerness positive. On me dit au départ, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire de positif, et en fait en cherchant un petit peu, en préparant l'émission, en ayant les questions en avance, en disant oui effectivement ça c'était un bon moment positif. Par exemple, une de mes questions c'était est-ce qu'on a une histoire en lien avec le monde du travail et la queerness qui soit positive. De prime abord, comme ça, oui, en fait, on va se concentrer que sur le positif, on va faire travailler sa mémoire positive. Et après coup, il se passe aussi des choses chez les invités, en fait.
Donc ça, c'est important. C'est pas seulement donc vis-à-vis des auditeurs et des auditrices, mais aussi pour ceux qui viennent, ça leur apporte quelque chose.
Bien sûr.
C'est vrai, là, quand tu me dis... moi, je ne suis pas de la même communauté. Mmh. Pour autant, quand tu me dis un truc positif... dans le monde du travail, quand on est queer, c'est vrai que spontanément, je suis pas sûre d'avoir déjà entendu des histoires positives. Enfin, si, parce que j'ai écouté plusieurs de tes podcasts.
J'allais dire la même chose.
Mais merci. En dehors de ça, c'est vrai que c'est pas ce qui vient à l'esprit.
Et oui.
Le monde du travail, ça paraît tellement fermé, tellement peu tolérant. La diversité, ils font qu'en parler, mais dans les faits, c'est pas vraiment ça. Donc là, c'est vrai que c'est super de pouvoir rebondir sur des choses comme ça et de trouver du positif. Et tu aurais une histoire comme ça qui te vient à l'esprit là spontanément d'une expérience positive dans le monde du travail ou plusieurs. Mais enfin, là, un exemple, par exemple.
Je suis en train de chercher un petit peu de mémoire dans mes derniers épisodes aussi que j'ai pu avoir.
Non, mais sinon, c'était au cas où.
Dans mon expérience personnelle, oui, j'en ai eu quand je suis rentrée de ma session de psy. En fait, j'étais avec plusieurs collègues à qui je m'entends très bien, et notamment une collègue que j'adore et j'envoie encore plein de bisous si un jour elle écoute ça. Où je lui ai dit, tu te rends compte, j'ai 36 ans et je viens d'apprendre que je suis pansexuelle. Et elle me dit, ok, trop bien, mais c'est quoi? Du coup, je lui ai expliqué et elle me dit, ah ouais, trop cool. Et puis, en fait, il n'y a pas eu de question déplacée, il n'y a pas eu de moment gênant. Elle a gardé mon secret, on va dire, dans un premier temps, parce que je n'avais pas envie d'en parler à tout le monde tout de suite, c'est mon intimité quand même. Et oui, c'était un beau moment professionnel de travail dont ma queerness était positive. Parce que c'était une collègue, c'était avant tout une collègue avant d'être une amie. Aujourd'hui, c'est une amie,
ouais.
Mais à ce moment-là, c'était ma collègue.
Donc ça, c'est vraiment un moment fort. D'ailleurs, si tu le racontes comme ça spontanément, et puis les auditeurs et les auditrices ne te voient pas, mais tu souris, tu as les yeux qui brillent, on voit que c'est quelque chose de fort, quoi, un souvenir fort pour toi.
Oui.
Et est-ce qu'il y a d'autres, dans les questions que tu poses, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont difficiles spontanément au départ pour tes invités? Ils sont prévenus? Ils ont les questions à l'avance
ou
pas?
Ils ont les questions en avance. C'est très important justement d'y penser un petit peu en avance. Excuse-moi, ta question c'était?
Je sais plus.
Ils ont les questions en avance.
Oui,
des questions difficiles si on n'est pas préparé.
Oui, ils se disent, mais. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, oui. Qui disent non, je vois pas. Et est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mis à part peut-être le monde du travail dont on vient de parler?
Les coming out positifs. Demande, est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? Et oui, j'ai eu des réponses intéressantes. C'est toujours, est-ce que ça s'est toujours bien passé? Est-ce qu'on a envie de se rappeler? On veut se rappeler du positif. Et du coup, ça fait réfléchir la personne en amont, ça lui rappelle ces souvenirs-là, ça lui rappelle des émotions positives. Et en fait, ça permet ensuite, en partageant son histoire, de proposer une vision positive de la queerness. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est souffrant, qu'on est misérable, qu'on est malheureux. Moi, je prône vraiment cette fête autour de l'homosexualité, on s'entend. J'ai envie de parler un petit peu d'euphorie de genre. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont bah on peut si, parler.
Bien sûr. Okay.
Du coup, l'euphorie de genre, ce serait l'inverse de la dysphorie de genre. Est-ce que vous savez ce que c'est la dysphorie de genre?
Oui, mais je vais te laisser expliquer. Ouais.
Okay. Alors, la dysphorie de genre, c'est un malaise vis-à-vis des caractéristiques sexuelles et du genre assigné à la naissance. Donc, ça va concerner les personnes trans, du coup. Et au départ, on peut se dire, voilà, quand on est trans, on est forcément happé par cette dysphorie, on va avoir forcément de la dysphorie, et c'est pas du tout obligatoire. J'ai eu la chance d'interviewer un illustrateur que j'adore qui s'appelle Laurier The Fox, qui a parlé d'euphorie de genre, et mon épouse, donc qui est une femme trans, a eu aussi cette euphorie de genre. Et quand elle a entendu ça, elle me l'a dit, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et elle n'a pas eu de dysphorie, elle a eu vraiment de l'euphorie de genre. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle a eu son coming in de femme. Et en fait, de se voir avec une belle robe, du maquillage, des attraits féminins qu'elle avait choisis, et c'est là qu'elle a eu son euphorie de genre.
Ça veut dire donc ne pas être que les caractéristiques biologiques sont pas un problème.
Non. Voilà. Non, au contraire, on est heureux de découvrir trans.
D'accord. Mmh. En dépit de ces caractéristiques biologiques de l'autre de l'autre genre, de l'autre sexe, et qu'on fait avec ou pas d'ailleurs, ça c'est personnel effectivement, mais qui peuvent aussi être donc vues comme positives. Je suis née femme biologiquement en parlant. Je me genre au masculin. Et si je ne veux pas passer par la médecine, la chirurgie, etc., c'est pas un problème d'avoir des attributs physiques du genre qui n'est pas celui que je me suis choisi. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je...
C'est ça, mais je vais utiliser des mots différents parce que les mots sont très importants pour moi et surtout pour parler de ces questions-là.
Mais puis tu as raison parce que je n'ai pas le vocabulaire adéquat, c'est clair.
Donc on parle de genre assigné à la naissance en fonction des caractéristiques sexuelles, effectivement. Mais donc c'est un genre qui nous a été assigné. Donc en tant que personne trans, on peut être en désaccord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Mais le genre, à l'inverse du sexe, et donc on peut être de sexe biologique féminin, masculin ou intersexe, ne les oublions pas.
C'est vrai.
C'est beaucoup de personnes dans la population qui sont malheureusement vraiment beaucoup oubliées. Quant au genre, on parle du genre féminin, du genre masculin, mais ce sont des spectres. Donc on peut être dans une représentation de genre, une expression de genre, plus ou moins féminin ou masculin, ou au contraire très neutre. Et j'ai envie de partager une expérience que j'ai eue après l'enregistrement d'un épisode. J'ai reçu Okulani Tahatari, qui est une personne non-binaire, qui arrivait en se présentant comme une personne non-binaire. Et pendant l'épisode, on a beaucoup discuté du fait de se définir comme non quelque chose. Et on a pas mal réfléchi, et puis on a un peu laissé le sujet pour d'autres recherches plus tard, chacune de notre côté. Et à ce moment-là, quand elle est rentrée chez elle, il m'a dit tu sais, Pauline, j'ai fait des recherches et tout, et en fait, je pense que je suis gender queer. Je suis de genre queer. Je ne suis pas non-binaire, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je suis gender queer. Et j'adore cette définition, en fait. Et je crois, même moi, je pense que je suis genderqueer aujourd'hui.
On n'a pas besoin de mettre les gens dans des cases, en fait.
Exactement.
Ouais.
Puisqu'on est sur un spectre.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça me permet de, si j'ai une minute, de parler d'un des deux livres que j'ai apportés, qui est « Ceci n'est pas un livre sur le genre » de Morgan Noam Lucas. Et justement, qui va assez loin dans les sujets sur le genre. Et je vous invite à regarder cet ouvrage qui est incroyable.
Alors, c'est un livre que j'ai entre les mains, on le mettra aussi en photo sur les réseaux. Alors déjà, on voit évidemment les couleurs sur le mot genre, on retrouve l'arc-en-ciel. Alors je regarde juste derrière, je découvre ce livre. À quoi savez-vous que vous êtes un homme, une femme ou que vous n'êtes ni l'un ni l'autre ? Est-ce un rôle, une croyance, une condition, un chromosome, un taux d'hormone, un M ou un F sur votre corps ? Carte d'identité. Loin des injonctions et des schémas préconçus, est-ce toujours vous dans le miroir ? Vous a-t-on seulement donné la possibilité de vous poser toutes ces questions ? Avec moi, ça a l'air très intéressant. C'est voilà, il va falloir qu'on feuillette ça un petit peu plus. Tu nous as donné un morceau de musique pour faire une petite pause ce soir. On va passer ce morceau, puis après tu nous diras peut-être pourquoi tu as choisi ce morceau. On y va ?
Oui.
Allez.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the pink pony club.
Cette pause musicale est juste avant de revenir à toi, Pauline, qui nous expliquera pourquoi ce choix. Eh bien, il est 19h30 ou 31, et c'est donc l'heure de la première chronique d'Annie qui va nous remonter le moral.
Oui.
On n'est pas dans la bulle de positivité en général avec Annie, mais ce n'est pas de sa faute.
Je fais ce que je peux.
Merci.
Alors, j'espère qu'un jour, je pourrai vous dire, bon bah ce soir, je fais pas de chronique parce qu'il n'y a plus rien à dire, tout va bien, tout roule, le patriarcat est mort et enterré, il n'y a plus d'inégalité, plus ni d'atrocité.
Yes !
Mais laissez-moi vous dire que pour le moment, on en est loin, très loin même. C'est sûr que c'est pas la page blanche qui m'inquiète, malheureusement. En ce début de chronique, un message d'avertissement, un trigger warning. Il va être question de pédocriminalité. Le mois dernier, je rappelais les mots de Simone Veil à l'égard de notre extraordinaire Premier ministre lorsqu'elle disait qu'elle connaissait tout de son passé et ses trahisons successives. Si ces mots pouvaient paraître flous ou obscurs, là, maintenant, je pense que tout est clair. Vous avez sûrement entendu parler de Bétaram ces derniers temps. À la base, moi, je ne connaissais que les grottes là-bas, mais j'ignorais qu'il existait bien plus ténébreux. Ténébreux comme une école, synonyme de cauchemar. Une école dans laquelle, au lieu d'y acquérir le savoir, les enfants sont brisés et leurs rêves se transforment en désespoir. Au sein de ce vase clos catholique, niché au cœur des Pyrénées, surveillants et curés sévissent depuis des décennies. En effet, 152 anciens élèves accusent 13 prêtres et 4 laïcs de violences physiques, et au moins 68 d'entre eux les accusent de violences sexuelles. Sanctions violentes, humiliantes et dégradantes, agressions sexuelles et viols, voilà comment se déroule l'éducation à l'école Notre-Dame de Bétaram, récemment rebaptisée le Bourg-Hameau. Cette école privée sous contrat avait pourtant fait l'objet d'un premier contrôle en 1996, suite à une plainte déposée pour une gifle à l'origine d'une perte d'audition chez un élève. À l'époque, le rapport avait statué qu'il n'y avait pas de problème dans l'établissement. Aucun contrôle n'a été recensé depuis, pas même après 2 plaintes pour viol en 1998 et 2000. Mais quel est le rapport avec Bayrou? Eh bien, ses enfants ont été scolarisés dans cet établissement et sa femme y a enseigné le catéchisme. Mais il affirme qu'il n'était pas au courant des horreurs que subissaient certains élèves. Mais il avait quand même ordonné l'inspection de 1996, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Étrange. D'après Mediapart, il savait. Il participerait donc, lui aussi, à l'omerta, la loi du silence si chère à l'Église catholique? Étonnant pour un vieux mâle blanc. Ah ben non. Bon, de toute façon, moi, je fais confiance à Simone. Cette nouvelle affaire de violence sexuelle met une nouvelle fois en évidence la décrédibilisation systématique et systémique des victimes. Enfin, quand on daigne s'intéresser à elles et ce qu'elles ont à dire. Mais les droitards, eux, ça les embarrasse, les victimes. Alors ils préfèrent accuser les gauchistes d'instrumentalisation, de récupération, de manipulation. Comme si tout le monde était aussi malsain que leur rang brun, que la décence a visiblement définitivement déserté. Et puis, ils ont peut-être peur. Enfin, elle aurait changé de camp. Que d'autres systèmes tortionnaires soient révélés au grand jour. Parce que des écoles privées sous contrat, il y en a beaucoup. Beaucoup qui ne sont jamais inspectés, alors même que l'État participe allègrement à leur financement. Et il n'y a pas que du séparatisme catholique dont l'État devrait se méfier, parce que l'omerta, cultivée et entretenue par le patriarcat, sévit dans de nombreux domaines. Au sein même de l'ordre des médecins, la loi du silence semble bien implantée. C'est en tout cas ce que laisse percevoir le procès de Joël Le Squarnec, qui débutait le 24 février dernier à la Cour criminelle départementale du Morbihan. 299 victimes, âgées de 11 ans en moyenne, au moment des faits, ont subi les agressions sexuelles et les viols de ce chirurgien. L'enquête a révélé qu'il sévissait également au sein de sa famille, que de nombreuses personnes connaissaient ses agissements, mais l'ont toujours protégé, par ce silence si confortable pour eux, mais si cruel et assourdissant pour les victimes. En 2005, ce praticien avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Pourtant, personne n'a jugé nécessaire de remettre en cause ses aptitudes, alors même que le Conseil de l'Ordre des médecins du Finistère avait été saisi. Il a donc pu continuer ses sordides agissements en les consignant dans ses carnets de bons pères de famille jusqu'en 2017, année durant laquelle la plainte d'une enfant de 6 ans mettra enfin un terme à ces atrocités. 152 victimes à Bétaram, 299 victimes d'un soignant, autant de vies brisées, d'avenir entravé, de rêves enterrés. Mais ce qui inquiète nos législateurs, c'est un morceau de tissu. Oui, les prêtres peuvent violer les enfants en toute impunité, mais les femmes musulmanes pratiquantes ne peuvent pas jouer au foot.
Faut pas déconner, il y a des règles. Le 18 février dernier, le Sénat a effectivement adopté une proposition de loi visant, entre autres, à interdire le port du voile lors des compétitions sportives. Notre gouvernement est donc perturbé par les hijabeuses, mais pas par les prédocriminels. Pas pédophiles, non, parce qu'ils n'aiment pas les enfants, ils les détruisent. Je terminerai cette chronique avec une phrase empruntée à Marion Dallard dans un édito du journal L'Humanité. Le patriarcat est un poison qui enferme les victimes dans le silence et la honte, renforce le sentiment d'impunité des agresseurs.
Et bah en ce moment, c'est une avalanche.
Ah, mais complètement, oui.
Enfin, c'est une avalanche de choses qu'on apprend.
Ouais.
Il n'y en a pas plus en ce moment. Enfin, je veux dire, entre l'abbé Pierre, l'affaire Pellico...
On peut peut-être rappeler quelques chiffres. Donc, c'était la commission Civis.
Oui, c'est ça.
Qui comptabilise à peu près 160 000 enfants victimes d'abus sexuels. Et on compte 30 000 garçons dans ces 160 000. Voilà.
Les chiffres sont effrayants. Chaque fois qu'on allume la radio, qu'on ouvre un journal, on se dit... Enfin, je veux dire... Enfin, entre ça et... Ça n'a rien à voir. Encore que les femmes... C'est ça et Trump, quoi, qui occupe l'actualité. La scène, l'actualité. Hein, c'est quand même... mais, enfin, franchement, là... Alors, effectivement, quand je dis une avalanche, faut bien garder à l'esprit que tout ça, c'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est pas récent. Ouais. Ça sort. Il se trouve qu'il y a des choses qui sortent à certains moments, plus ou moins en même temps ou à la suite. Pour autant, c'est dans la société comme ça, tout le temps, de façon continue. C'est pas en ce moment qu'il y en a plus que d'habitude. C'est juste que la parole se libère davantage à notre époque. Et puis, parfois, de façon groupée, hasard, pas hasard, je ne sais pas. Comment je sais
que
plus.
Les gens portent plainte, oui. Aussi.
L'affaire Betaram, elle est sortie comment là
Alors en fait, elle est en cours depuis un an. Elle a commencé l'année dernière. Et en fait, le fait que Bayrou soit Premier ministre,
oui, c'est ça.
Du coup, c'est ça qui a insisté en fait sur l'affaire. Mais l'enquête est en cours depuis l'année dernière.
Ouais. Et donc, s'il n'avait pas été Premier ministre, ça se trouve, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Un entrefilet.
Pour cacher d'autres choses qui se passent. En fait, on va mettre Betaram bien en avant pour pas...
Alors, évidemment, il y a ça aussi, évidemment, parce que bon, les médias, la presse, les politiques jouent aussi sur le côté... le terme n'est pas adapté, j'allais dire sensationnalisme, mais au sens négatif du terme, bien sûr, hein, ce qui met en colère, ce qui permet justement, effectivement, de détourner l'attention des autres, des autres événements, hein, d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Tu parlais de l'enseignement privé sous contrat, donc effectivement, les enseignants des établissements privés sous contrat sont payés par l'État. Ils sont, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais ils sont payés par l'État, donc 6 000 fonctionnaires. Voilà, entre autres comme aide financière. Et puis alors, il y a aussi les établissements hors contrat, là. Là, je ne sais pas ce qui est possible. Enfin,
ça doit être encore pire.
Et puis même les établissements publics. Voilà, malheureusement, ces choses-là, ça arrive partout. Mais c'est vrai que c'est plus facile à cacher quand ce n'est pas public et quand il y a une omerta de pouvoir, comme peut l'être la religion. Effectivement, quand il y a des juges, quand il y a... voilà, c'est... Ah ben, tu nous as pas
réjoui. Je vais en rajouter une couche pour vous plomber. Je vous mets une petite chanson.
Oui, oui.
Non.
Ah,
Oui. C'est le titre de la chanson, pardon. Oui. Donc, Chloé Tardy.
Écoutez bien.
Sortie ce soir-là, alors peut-être que c'est de ma faute. Si j'ai croisé ce gars à qui j'ai souri, comme à tant d'autres, s'il a pris pour invitation, pourtant simple salutation, j'aurais pas dû, certains diront, pourtant je te jure que j'ai dit non. 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 Ce soir-là, mais depuis je sors plus de chez moi. J'ai essayé dès le lendemain d'aller en parler à quelqu'un. Je me me suis senti plus questionné sur ma tenue que sur les faits. Être en jogging ou en talon, est-ce que ça change le sens du nom? 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 J'étais de sortie ce soir-là, et depuis grandi en moi ce cancer qui silencieusement se mélange à mon corps, mon sang. De salle d'attente en cabinet, je cherche un médecin pour m'aider. Si je veux cette intervention, ont-ils le droit de me dire non? Ça va faire bientôt 9 mois que j'entends que devenir mère soignera mes blessures d'hier. Mais j'y crois pas, moi. Non, moi, je pourrais pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce soir-là, et ce soir sera mon dernier. J'aurais sans doute fait un autre choix si quelqu'un m'avait écouté.
Ce morceau est une claque. Alex, tu nous rappelles, donc c'est la chanson Non.
Non, de Chloé Tardy.
Qui vient de sortir.
Enfin, oui, début d'année, oui. Voilà, c'est tout ça. Nouveau.
C'est...
Oui. Elle est poignante. Hein.
Elle est très poignante. Elle est, enfin, quand je l'ai écoutée pour la première fois, j'étais
pareil.
J'étais toute seule. Enfin, voilà, je m'attendais pas en fait, et ça a été vraiment un choc, quoi. Ça te, c'est vraiment très violent. Et bien pour revenir à la musique, alors au morceau précédent, donc pas Non, mais le morceau d'avant, donc que tu as choisi, Pauline, Pink Pony Club. Pourquoi as-tu choisi cette chanson?
Eh bien, donc c'est une drag queen, une femme drag queen qui chante, et c'est Chapel Roan. Et c'est tout simplement une recommandation de mon podcast. C'est-à-dire que dans les questions de mes invités, je demande, avez-vous des contenus queer et positifs? Et ça faisait partie de ces recommandations par mon amie Amélie.
D'accord. Ah bah, c'est une chouette découverte. Moi aussi, je ne connaissais pas non plus. Vous connaissiez?
Non, je ne connaissais pas non plus. Si, c'est un peu une chose, ça monte. Enfin, elle commence à être bien connue aux États-Unis.
Oui, là, elle vient de remporter un prix. Alors, je n'ai plus le nom du prix, excusez-moi. Mais elle a fait un show incroyable, monté sur une magnifique licorne. Enfin, un pink pony, quoi. Enfin, un pink pony énorme où elle danse, et c'était incroyable. Et elle a toujours un maquillage de visage blanc comme un clown de cirque, en fait. Et c'est une réponse aux injures qu'elle recevait quand elle était adolescente, en fait. Et c'est pour ça qu'elle a toujours un maquillage très blanc. Et j'aime beaucoup ce personnage de femme drag queen, quoi.
Et j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder la vidéo de ce morceau que tu nous as fait découvrir ce soir. Parce que le clip, le clip est chouette. Il faut le voir aussi, ça accompagne bien la musique. Enfin, c'est le principe d'un clip. Mais là, vraiment, je le conseille plus particulièrement... Donc, tu nous disais... Oui, je voulais savoir, tes invités, tu les trouves comment? Tu lances des appels? Encore une fois, c'est le bouche à oreille? Comment ça marche?
Alors, en premier lieu, ça a été les personnes autour de moi.
Ouais.
J'étais très facilement, j'ai demandé à mon épouse sur la première invitée. Ensuite, j'ai demandé à mes amis que je connaissais queer autour de moi. Et puis, j'ai très envie de recevoir quelques personnes. Du coup, je vais leur proposer, leur envoyer des messages et voir si ça prend. Et j'ai aussi lancé des appels, en fait, tout a été fait.
Et donc, tu as reçu des invités que tu ne connaissais pas avant ?
Ça a été le cas aussi, parce que une de mes questions notamment, c'est est-ce que on a un invité à me recommander.
D'accord, ok.
Et du coup, bah, par exemple, la personne dont je parlais tout à l'heure, Okulani, ça a été une recommandation de l'épisode d'Emma.
D'accord. Et est-ce que tu as ressenti, est-ce que c'est plus facile, plus difficile, ou je ne sais pas si les mots facile et difficile sont appropriés non plus, mais quand c'est quelqu'un que tu connais bien, ou quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce que il y a une différence? Enfin, il y en a une, j'imagine, mais est-ce que ça se ressent dans ton podcast? Enfin, à ton avis?
Je pense que oui. Après, peut-être que c'est plus Annie qui peut répondre, parce qu'elle a écouté différents épisodes. Et tu me disais que tu avais écouté des épisodes, notamment celui de Alan et de Margot, par exemple, où Margot, on ressent, bah, c'est mon amie, et Alan, je le connaissais pas.
Ah oui, tu connaissais pas.
Est-ce que tu as ressenti, toi, quelque chose?
Non. Non, ça faisait vraiment une discussion entre amis. Enfin, voilà, hyper serein. Ah, c'est chouette.
Ouais, c'est aussi le feeling que je peux avoir avec les personnes. Par exemple, l'épisode de Léolio Goulding, qui est un auteur. C'est un auteur, poète, artiste incroyable.
Je l'ai écouté celui-là, me semble-t-il.
Il est incroyable, Léolio. Et pareil, on l'adore, on lui fait plein de bisous. Et le courant est hyper bien passé avec lui. On a enregistré, je crois, pendant 2h30.
Ah oui. Normalement, c'est, enfin, il y a un format.
Ah oui, j'ai vu. Il y en a un qui est divisé en deux.
Exactement. J'ai divisé l'épisode en deux pour passer.
Normalement, il y a un.
J'aime bien rester autour de 50 minutes.
D'accord.
C'est ce que j'aime bien, ce format-là.
D'accord.
Mais après, je passe par un exportateur de podcast, quoi, et c'est limité à 150 mégas. Alors, d'accord. Si je dépasse un peu plus d'une heure, bah, là, ça me bloque. Donc, Léolio, il était en deux épisodes, et je pense que bientôt, j'en ferai d'autres en deux épisodes, ouais.
Et ça te passionne, quoi.
Ah ouais, complètement.
Ça se voit, ça s'entend, ça se voit.
Mais c'est comme tu disais sur ma présentation, c'était un besoin, oui. En fait. Ça vient d'un besoin, et je pense que c'est les projets qui fonctionnent les mieux aussi. C'est que s'il y a un besoin, ben, c'est quelque chose où j'ai envie de mettre de l'énergie. Et on parlait tout à l'heure de maladie. Moi, je suis fibromyalgique. Et en fait, faire le podcast, ça fait aussi partie de mon traitement pluridisciplinaire, en fait. Dans la fibromyalgie, il faut être positive. Vraiment se lever avec une idée de « je vais passer une bonne journée, ça va bien se passer ». Vraiment... Dans cette optique-là, si on se réveille avec un esprit négatif, ben, ça va être vraiment plus difficile d'y aller. Et faire ce podcast, et justement, on reparle du rythme, où je le fais vraiment à mon rythme, en écoutant mon corps, là, je peux vraiment l'utiliser comme un soin aussi pour moi.
Mmh. Tu parlais de la fibromyalgie, et comme tu dis, il faut se lever, se réveiller le matin en étant positif, mais ça doit être très difficile pour certaines personnes. C'est quoi? C'est une conviction, c'est un exercice mental. Est-ce que ça a toujours été comme ça chez toi? On sort un peu du sujet, mais c'est pas grave.
Ça fait partie du sujet pour moi, en fait, parce
d'accord.
que quand on parle de LGBTQIA+, pour moi, j'ai aussi envie de mettre les personnes on dit aussi,
oui.
Parce que on lutte aussi contre toutes les formes de discrimination. Et comme je le dis dans mes présentations, moi, je suis une personne grosse, je suis une personne on dit, je suis une personne pansexuelle, panromantique, etc. Mais je suis une personne malade, en fait. J'ai une maladie chronique. Donc, qui dure depuis plus de 3 mois. Et j'ai une pathologie qui fonctionne en montagne russe. C'est-à-dire que je peux être en montagne russe au niveau d'un mois, d'une semaine, mais aussi de la journée. C'est que je peux me lever en forme, ça va, je peux marcher, tout va bien. Je commence, je prends mon petit-déj, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mon enfant, de mon épouse, tout va bien, mon chien, etc. Mais en fait, petite contrariété, ou d'un coup, juste comme ça, sortie de nulle part, et hop, je peux avoir une sensation de cheville cassée, vraiment. Ou je peux avoir mon épaule qui va se bloquer, ou des douleurs intenses au niveau des cuisses,
dos. Tu peux rappeler juste en quelques mots ce qu'est la fibromyalgie, pour si peut-être que des auditeurs et des auditrices ne savent pas ce que c'est?
C'est une maladie chronique qui peut toucher l'ensemble du corps, ou certaines parties, de douleurs diffuses au niveau des articulations, ou même des muscles. En fait, c'est une pathologie fourre-tout. Où chaque maladie est différente, on va dire. Il y a autant de fibromyalgie que de fibromyalgique.
Et des traitements? Des antidouleurs, point final?
Alors, il y a beaucoup de traitements.
Ouais.
Tout ne fonctionne pas. Et on a des traitements pluridisciplinaires. C'est vraiment ce qui peut fonctionner. En termes de médicaments, ça va être des antidouleurs. Alors voilà, les doliprane, pour moi, c'est des bonbons oui, hein, aujourd'hui. Doute, hein.
Oui. Des opiacés, des rêves de morphine, des choses comme ça.
Exactement. Là, ça peut être là-dessus. Il y a aussi tout ce qui va être activité physique adaptée. Par exemple, moi, je fais du canoë-kayak adapté. Donc d'accord. C'est super cool. J'ai ma prof particulière où elle me porte le canoë-kayak, elle me le met sur l'eau, elle m'aide à monter dedans, à embarquer. Des fois, on fait du kayak à deux, du canoë, pardon, à deux, où elle pagaie avec moi quand je peux faire des pauses, en fait. Ou des fois, je me sens un petit peu mieux. Et puis là, on va pouvoir faire du kayak où je suis toute seule et je peux y aller, quoi. Et en fait, c'est vraiment adapté où j'ai une forte douleur qui arrive, je m'arrête. Voilà, et ça, c'est hyper important. Je fais aussi de la kiné, j'ai mon suivi psychologique. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large, pluridisciplinaire comme traitement. Aujourd'hui, c'est une maladie qui a été très, très longue à être reconnue et surtout à être crue. La première fois que j'ai mon diagnostic, en fait, mon rhumato, c'est un rhumato que j'ai découvert comme ça. Mon généraliste qui m'envoie vers un rhumato, donc c'était pas du tout dans le coin. Et le rhumato me dit vous êtes fibromyalgique, c'est incurable, vous irez voir ce que c'est sur internet, au revoir madame.
La violence.
Ouais, c'était ultra violent et j'avais 27 ans. Du coup, je suis sortie de là complètement désarmée. Et puis, c'est une maladie qui est en différents stades. Donc, on peut rester en dormance en stade 1 pendant très longtemps. Puis après, il peut se passer des événements de vie comme n'importe lesquels. Et puis, peut-être monter en stade 2, 3, voire 4. Moi, là, je sors d'une phase 4. En fait.
Est-ce qu'on peut redescendre à une phase 1 si on est monté très haut?
Oui. D'accord. C'est ça qui est important. C'est pour ça que l'histoire n'est pas montagne russe. Exactement. C'est pour ça des montagnes russes, c'est parce qu'on redescend. Et là, en ce moment, je redescends d'une phase 4 vers une phase 3 tout doucement. Aujourd'hui, par exemple, je suis en fauteuil roulant, mais ce matin, je pouvais marcher. Là, aujourd'hui, ce soir, je peux un peu moins marcher parce que je suis un peu stressée de venir à la radio.
Oh
donc,
non.
Ça se ressent sur mon corps, c'est normal. Mais peut-être que demain, après une bonne nuit de sommeil et une bonne sieste, ça ira mieux et je pourrai un peu plus marcher.
Surtout après avoir réécouté le podcast. Écouter le podcast, je pense que là, tu pourras danser maintenant.
Tout à fait. Et en fait, c'est aussi ça. C'est pas parce que je suis en fauteuil que je peux pas marcher, que je peux pas faire autre chose. Et pareil, ce regard sur le handicap est très difficile. Y a des gens dans la rue, ils me voient me lever de mon fauteuil, ils font « Oh, c'est un miracle !» Non, on se calme. Enfin, voilà, ce n'est pas un miracle, c'est juste que je dors pas avec mon fauteuil roulant, par exemple. Hein. Donc, les aides que j'utilise, je ne les ai pas H24. Donc, des fois, j'ai une canne, des fois, j'ai un bâton de marche, des fois, j'ai des béquilles. J'ai une bouillotte, j'ai une couverture chauffante. Et tout ça, c'est des aides, en fait. Mais ouais, mais tout ça, c'est des aides à mon handicap. Mais j'en ai pas besoin 100% du temps.
Donc, ton activité de podcasteuse te fait du bien, même si c'est pas le sujet de tes podcasts. Ça te fait du bien à toi dans ton processus de... Alors, le terme de guérison n'est sûrement pas adapté non plus, mais dans ta façon de gérer ta maladie.
Exactement.
Et dans ton bien-être, en fait, tout simplement. Quoi.
Et je dois me faire du bien sur prescription médicale.
Et oui, absolument.
Ma médecin me dit, vous êtes obligé de faire des trucs qui vous font plaisir.
Et tu permets à d'autres gens de se faire plaisir aussi.
Qu'est-ce qu'elle est forte, la bouclée. Bravo, Audrey.
Et bien, sur ces points positifs, nous allons revenir à du négatif. D'abord, une petite pause musicale.
Une petite pause musicale.
Bien sûr. Ah,
alors là, c'est mon moment préféré de l'émission. Ça va être ma spéciale dédicace pour les masculins. Donc, le groupe s'appelle Trix et le titre de la chanson, c'est Teeny Brain. Et alors, ce qui est formidable, c'est que même quand on n'a pas un très bon niveau d'anglais comme le mien, on comprend facilement les paroles. Donc, je vous laisse écouter. Not a game. A smile is not a call. Thank you, leave me alone. My ass is not a cake. My body's not a game. A smile is not a call. My ass is not a cake. My body's not a game.
Don't touch me, respect me. Don't touch me, respect me.
Alex nous trouve toujours des pépites incroyables et prends-toi ça dans la tronche, le masculiniste qui nous écoute certainement pas.
Ouais, je suis sûre qu'il était nul en anglais, il a dansé dessus.
Ouais. Alors réécoutez-la si vous n'avez pas bien compris les paroles, parce que c'est quand même très simple, il n'y a pas beaucoup de phrases, ouais. Elles sont très courtes, c'est les mêmes qui sont, c'est quasiment les mêmes qui sont répétées en boucle, et elles sont très claires. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous cherchez les paroles sur Google, je suis sûre qu'on doit les trouver, et vous utilisez l'intelligence artificielle pour les traduire si vraiment, vraiment vous ne comprenez toujours pas. Ça, c'est surtout pour les masculinistes qui ne pourraient pas comprendre, parce que même s'ils comprenaient, ils ne pourraient pas croire qu'ils ont bien compris. En fait, ils se diraient non, ça ne peut pas, ça peut pas vouloir
pourtant,
dire ça.
Pourtant, ils l'expliquent dans la chanson. Hein,
mais bon, le masculiniste, il n'a pas de cerveau en même temps. Vraiment, bref.
Tiny brain.
Eh bien, il est l'heure de la deuxième chronique. Dani, quand tu veux.
Bon, bah, dans cette chronique-là non plus, page blanche, malheureusement. Pourtant, depuis ce 1er mars, on a réduit nos déchets. C8 a cessé d'émettre. Ouah !
Oui !
Bon, avant de disparaître, la chaîne a excrété un dernier outrage puant aux droits des femmes en diffusant un film anti-avortement. Je rappelle que le propriétaire de la défunte chaîne est un fervent catholique réactionnaire. C'est assez incroyable de voir comment les cathos intégristes sont toujours prêts à protéger des enfants qui n'existent pas, alors qu'ils détruisent ceux qui existent bel et bien à tour de bras. Malgré la disparition d'un tel canal de diffusion propagandiste du patriarcat, les inégalités sont toujours criantes. Commençons par le domaine du sport. Le site Sportico a dévoilé la liste des 100 athlètes les mieux payés au monde en 2024. Eh bien, devinez quoi ? Aucune femme. Aucune femme parmi ces 100 noms. Et pire, pour trouver une athlète, il faut descendre jusqu'à la 125e place avec Coco Gauff, tenniswoman américaine. Vous vous souvenez de l'été 2024 pourtant ? Un festival de performance. Simone Biles, Iman Khelif, Clarisse Abgeignenou, entre autres. Eh bien non, leurs exploits ne sont pas suffisants a priori. D'après les informations que j'ai consultées, les revenus des athlètes ont considérablement augmenté en 2024 en raison essentiellement de la contribution d'un fonds public d'investissement issu d'Arabie Saoudite. Rien d'étonnant que ce soit des athlètes masculins qui en aient principalement bénéficié donc. D'ailleurs, si vous vous interrogez sur la condition des femmes en Arabie Saoudite et à travers le monde, je vous invite à consulter les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, de Nous Toutes 85, parce qu'elles ont produit une super campagne de communication à l'approche du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, qui offre un tour du monde en quelques chiffres clés. C'est assez édifiant et percutant, au cas où vous n'aviez pas saisi l'importance et le caractère indispensable du féminisme à travers le monde. Ce monde dans lequel l'affreuse pumpkin d'outre-Atlantique et son droïde nazi désarticulé ont congédié une commandante des gardes-côtes, Linda Fagan, simplement parce qu'elle était attachée aux valeurs d'inclusion et de diversité. Ce monde dans lequel le viol est toujours une arme de guerre, notamment dans des contextes aussi terribles que ceux du Soudan et du Rwanda, dont nos médias de milliardaires indifférents ne font pourtant que très peu de cas. Peut-être que si nos dirigeants politiques européens n'étaient pas accaparés par leur démêlé avec la justice, peut-être que si leur intégrité ne faisait aucun doute, et peut-être que si elles passaient moins de temps à inventer de faux problèmes racistes, les valeurs européennes pourraient être défendues et étendues de manière à renforcer les très fragiles remparts face aux bulldozers patriarco-capitalistes qui écrasent un nombre indéfini d'acquis sociaux sur son passage. Au cas où vous aviez réussi à vous bercer d'illusions jusque-là, à grand renfort de déni et de divertissement. Je suis navrée de venir troubler votre paix, mais malheureusement, elle risque inévitablement de disparaître rapidement. En effet, la bête distille son venin sans relâche et grignote chaque jour un peu plus de terrain. Même tout près de chez nous. Dimanche dernier, au Sable d'Olonne, un film interdit au Royaume-Uni, du hooligan d'extrême droite dont tu nous parlais, Audrey, le mois dernier, Tommy Robinson, a été diffusée dans une salle de la municipalité. Voilà comment s'installent tranquillement les schémas de pensée nauséabonds avec la complaisance des deals complices. Pour me remettre de toutes ces informations nocives et par opposition à une telle projection d'immondices cinématographiques, j'ai regardé un film relatant la vie d'une politologue philosophe germano-américaine, Hannah Arendt, de Margaret von Trotta. C'était passionnant. Et quelque chose me dit que l'heure est venue d'étudier les travaux d'Hannah Arendt avec une très grande attention. En attendant, si vous souhaitez vous informer, vous documenter, voire même agir, n'hésitez pas à vous renseigner à propos des événements organisés à l'occasion du 8 mars. Par exemple, le samedi matin, un village associatif, baptisé « Village de l'égalité femmes-hommes », est organisé au marché des Halles à La Roche-sur-Yon de 9h à 13h. L'après-midi, de 14h à 18h, un second village associatif, ponctué d'interventions, de tables rondes et autres chorégraphies, se tiendra à la maison des associations d'Aubigny, à Aubigny-les-Clouzeaux. Ce second village viendra clôturer le projet La Place des Femmes, qui a notamment offert de belles expositions et projections de films depuis un an. Mobilisons-nous nombreuses pour fêter la Journée internationale des droits des femmes. Et le premier qui me dit « Bonne journée de la femme !» Je vais l'attraper par la bip, le faire tourner comme un soleil. Ce soir, les femmes du monde entier dormiront sur leurs deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Pas la papa. Je ne sais pas si on est obligé de payer la SACEM pour ça. Peut-être si, que si je dis
si,
juste
si, graffiti, paye
merci
la SACEM,
Francis,
t'inquiète.
Ça passera. On verra bien. En tout cas, j'espère que l'on va chanter, danser, lutter joyeusement, se donner de la force et de la puissance en nombre pour célébrer les droits des femmes encore bien trop restreints et menacés.
Merci Annie. Oui, le 8 mars, bien sûr, ici, en Vendée, partout en France. Alors j'allais dire partout dans le monde, mais non, évidemment, pas partout dans le monde, puisque ça n'est pas possible partout dans le monde. Et là où ça n'est pas possible, c'est là où c'est le plus important, ça serait le plus important, c'est là où se passent les choses les plus graves. Je pense à l'Afghanistan, mais il n'y a pas que l'Afghanistan, évidemment. Et comme tu le disais, il y a nous toutes qui partagent des informations sur ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Sur chaque pays avec des chiffres.
Ouais, j'ai vu ça sur Instagram, effectivement, et c'est vraiment très bien. rien. Et puisque on est dans les violences, c'est que bah, je vais continuer à plomber l'ambiance. Même sinon, quand même, le 8 mars, c'est nécessaire, c'est ça qui est plombant. Mais comme tu l'as dit, il y a un côté festif parce que on manifeste, quel que soit le type de manifestation, de façon joyeuse. Et même si c'est pour parler de choses terribles. Et puis donc, pour continuer dans les choses terribles, eh bien, un chiffre que je crois j'avais oublié d'annoncer le mois dernier. Alors, je n'ai pas trouvé, nous sommes le 5 mars, au 1er mars, 23 féminicides depuis le 1er janvier enregistrés dans notre pays. Donc, je rappelle, comme je dis à chaque fois, que c'est une photographie au 1er mars. Il peut y avoir eu des meurtres avant le 1er mars qui n'ont pas encore été qualifiés de féminicides parce que le temps qu'il y ait une enquête, etc. Donc, on est toujours en dessous, en fait. Alors, j'ai eu du mal à comparer parce que je n'ai pas trouvé de date de chiffres correspondant à la même date pour les années précédentes, parce qu'on aime bien comparer. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que l'année dernière, au 5 février, on était à 19. Donc là, je dis 1er mars, oui, 1er mars 23. Donc 19 au 5 février l'année dernière, 20 au 28 février l'année d'avant, et en mars 2024, mais fin mars 2024, le 29, on était à 42. Mmh. Donc, en fait, on peut pas parler d'augmentation, on fera le point à la fin parce qu'on ne sait pas du tout. En tout cas, ça ne s'arrange pas, c'est évident. Je veux dire, 19 au 5 février l'année dernière, 23 au 1er mars cette année, comme chiffre provisoire. Donc, ça ne va pas mieux. Et là, on ne parle que de notre pays, bien sûr. Et bien après ces réjouissances, tu veux nous remettre de la musique?
Oui.
Faire la coupure avant de redonner la parole à Pauline.
Donc Roberta Flack.
Allez. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
He sang.
Ce magnifique morceau, sans doute popularisé par Lauryn Hill, que tout le monde connaît, mais finalement tout le monde ne connaissait pas.
Voilà. Roberta Flack, voilà, elle est décédée la semaine dernière.
Voilà, qui a écrit et interprété ce morceau, ou juste interprété,
juste
je ne sais pas.
Juste interprété.
D'accord, on sait qu'il a écrit, non.
Oui, des hommes.
Ah, bon. Alors, nous n'allons pas en parler. Ce qui compte, c'est les interprètes. Et... Non, mais il faut falloir que je revienne au dictionnaire, sinon, parce que ceux qui nous ont écoutés dès en début d'émission vont dire qu'on ne respecte pas ce que les définitions du dictionnaire, donc ça ne va pas du tout. Nous venons d'accueillir dans le studio Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Valérie de Nous Toutes 85, mais avant de lui donner la parole pour ses lectures du mois, nous allons nous allons terminer notre échange avec Pauline. Et ses podcasts, donc moi j'ai découvert quand tu nous as... Non, j'en avais écouté un au tout début, en fait, je pense, parce que je crois que c'est toi, Alex, qui m'en avait parlé, ou je ne sais pas, enfin... Et puis quand on a pris contact pour que tu viennes, je suis allée en écouter pas mal, en fait.
Cool.
J'ai trouvé ça très intéressant. Et qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur ton expérience de podcasteuse, sur ta queerness ou la queerness en général, ou tout ce que tu veux?
Je voulais dire que j'ai la chance déjà d'avoir des invités assez exceptionnels. J'en suis vraiment contente et je les remercie toutes et tous vraiment pour l'intimité qu'on a partagée, en fait. C'est vraiment, ils se sont ouverts, elles se sont ouvertes sur vraiment des questions importantes et ont accepté anonymement ou non. De parler de leur intimité. J'ai trouvé ça vraiment tellement généreux, en fait, de participer à cette vague de queer positivité. J'ai trouvé ça vraiment très cool de leur part. Et j'ai eu la chance d'interviewer trois auteuristes de régions des Pays de la Loire. Et je voulais quand même leur faire passer un message et les remercier aussi. Et je voudrais les citer ce soir. On a Léo MX, qui est un auteur incroyable, donc des Pays de la Loire. Lia Nolo aussi, qui est une autrice nantaise. Et tout à l'heure, j'ai parlé donc de Léolio Goulding, qui est poète. Et je vous invite à aller voir leur compte sur les réseaux sociaux. Et on a la chance d'avoir une belle culture écrite en Pays de la Loire par des personnes queer.
Et je crois que tu as prononcé des mots très importants, intimité et générosité.
Tout à fait.
Je crois que c'est vrai que ça illustre bien, rajoute positivité que tu utilises d'ailleurs dans ton podcast. Hein, j'ai dit tout à l'heure bulle de positivité, mais je t'ai piqué tes mots en fait. Hein, excuse-moi, j'ai pas...
Il n'y a pas de problème.
Je ne t'ai pas cité, c'est du plagiat donc. Merci beaucoup Pauline.
Merci encore, je vous invite à retrouver le podcast etc. En ce moment, je suis à peu près en ligne toutes les deux semaines, d'accord, à peu près. En fonction, bien sûr, de nos états, toutes et tous.
Donc, tu es sur Instagram.
Oui, tout à fait.
Et à partir d'Instagram, il y a le lien qui permet d'écouter tes podcasts.
Oui, tout à fait. J'ai un Linktree avec tous les liens, il n'y a pas de souci.
Et on le partagera aussi sur les réseaux.
Merci beaucoup.
Merci, Pauline. Alors, Valérie, donc, comme tous les mois, lecture Nous Toutes, qu'est-ce que tu as choisi?
Alors, ce soir, j'ai choisi de vous lire le prologue du livre d'Ovidie qui s'appelle « La chair est triste, hélas ». Ovidie, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une réalisatrice, journaliste, écrivaine, documentariste et formatrice en éducation sexuelle française, mais qui est bien souvent résumée à son parcours d'actrice de films porno. C'est quand même quelqu'un qui a eu en 2020 un doctorat en sciences humaines. Voilà. Cela dit, c'est aussi une féministe pro-sexe, donc qui a aussi défendu et soutenu la cause des travailleurs du sexe et la liberté sexuelle chez la femme. Donc finalement, certes, il ne faut pas la résumer à son parcours d'actrice porno, mais elle n'en fait pas non plus une honte.
Hein, ça voilà. Fait partie de son parcours.
Tout à fait. Donc, moi, j'ai choisi cet extrait de La chair est triste, hélas, qui traite donc de la sexualité féminine, mais en fait plutôt de la non-sexualité féminine, puisqu'elle aborde sa grève du sexe.
Oui.
Voilà. Un jour, je n'ai plus pu. Oh, bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs. Ce genre de choses n'arrive pas ex nihilo. Le dégoût, d'abord ponctuel, a pris place insidieusement jusqu'à m'envahir complètement. Comme un épuisement psychique, un burn-out, une impossibilité de faire un pas de plus, de rouler un kilomètre supplémentaire sur cette longue route de la perte de sens. J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée à consentir par politesse pour ne pas froisser les égaux fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui. À toutes ces nuits où je m'étais ennuyée, où j'avais simulé dans l'espoir que la chose se termine plus vite. À tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après. Aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur, aux pénétrations à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystites du lendemain et à la difficulté de trouver un médecin en urgence, aux mycoses parce que se laver les mains c'est trop leur demander, à l'alcalinité du sperme qui détruit la flore et aux vaginoses, je me suis remémoré tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité, toutes ces années de restrictions alimentaires, ces milliers d'heures de cardio à jeun jusqu'à l'évanouissement. Tout cet argent envolé, claqué dans de la lingerie, des talons hauts qui font souffrir et entravent la capacité à se mouvoir, des crèmes hors de prix qui ne tiennent pas leurs promesses, de la cryolipolyse qui congèle la graisse, des peelings qui brûlent la peau, et dans tant d'autres violences tout aussi onéreuses. Tous ces moments de torture où j'ai payé pour me faire mal. Tout ce temps gâché à me vernir les ongles des doigts de pied, à m'infliger masques et gommages, à teindre mes cheveux gris, pliés en deux au-dessus de la baignoire. Toute cette mascarade destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir auprès, après des années de vie commune. Toutes ces heures consacrées à m'instruire et à devenir une technicienne du sexe pour mieux satisfaire l'autre qui, in fine, se contentera de va-et-vient après un cunnilingus bâclé. Cette vie entière entourée, tournée intégralement vers le désir des hommes et l'attente d'une validation par leur regard. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnées une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Tout cela m'a soudain semblé insupportable. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Cela fait presque 4 ans que je fais la grève du sexe. J'ai stoppé les machines sans réel événement déclencheur. Ou plutôt aussi, une multitude de contrariétés on ne peut plus classiques, une déception amoureuse, des histoires de cocufiage, une petite fausse couche qu'autrefois on aurait pudiquement qualifiée de retard de règles. Au début, je n'ai pas conceptualisé cet arrêt comme une grève officielle ou un acte militant, ni même comme une vengeance, je n'ai voulu priver personne de dessert. J'ai entamé une grève silencieuse de la chambre à coucher afin de voir ce qui en découlerait. J'ai mis une pièce dans la machine pour observer ce que cela changerait à ma vie, à mon quotidien, à ma relation aux hommes, à mon corps, à mon rapport au monde. Je ne me suis pas réveillée en me disant « demain j'arrête » comme on se mettrait au régime ou on jetterait sa dernière cigarette en prenant de bonnes résolutions qui ne tiennent jamais dans la durée. Un an auparavant, il y avait eu un précédent. Un signe annonciateur du chemin que j'allais finir par suivre. En guise de proto-expérimentation de ma sortie de la sexualité avec les hommes, j'avais déjà entamé une grève de la pipe. Cette idée lumineuse m'était venue alors que je discutais avec une amie qui m'avait confié refuser de sucer ses amants tant qu'elle n'avait pas joui. Je lui avais répondu dans un grand éclat de rire que si j'avais dû attendre que mes partenaires me fassent jouir, je les aurais pas sucés souvent, les pauvres. Et j'ai compris que c'était bien ça le problème, cette acceptation sans révolte de devoir satisfaire l'autre sans rien exiger en retour, de payer sans jamais rien recevoir. Il m'est apparu totalement inégalitaire de me plier à un exercice unilatéral alors que mon propre plaisir avait de toute évidence toujours été absent de la sphère de pensée de mes partenaires, qu'il s'agisse d'amants éphémères ou de ceux qui m'ont passé la bague au doigt. Je m'étais déjà surprise à sucer en ne pensant à rien, à vivre une sorte d'excursion psychique pour m'échapper mentalement de cette situation, à accomplir ces gestes mécaniquement, à rédiger un mail ou une liste de courses dans ma tête, une bite dans la bouche. C'est là que je me suis décidée à plus faire semblant, à mettre fin à ces simagrées. La grève m'est alors apparue comme une évidence. Pourtant, je sais parfaitement le jouer, ce rôle de l'amante idéale qui aime ça, qui espère qu'on la félicite, tel un bon petit toutou. C'est bien, tu suces bien, ma chérie. Mais oui, évidemment qu'on sait le faire, un chimpanzé saurait le faire. Et pire que cela, parfois on préfère sucer plutôt que d'affronter une pénétration avec le service après-vente qui s'ensuit, la douche, l'irritation, la brûlure à la miction, la dosette de cranberry en poudre. ou plus grave, la crainte qu'il ne se retire pas à temps, que le préservatif craque, qu'on attrape des chlamydia, qu'on se retrouve 2 semaines plus tard à compter et recompter les jours en espérant que ces fichues règles arrivent enfin. Et je n'évoque même pas les nausées de la pilule du lendemain, ni la crainte de devoir avorter seule. Oui, parfois, mieux vaut sucer pour avoir la paix. Pourquoi croyez-vous que les travailleuses du sexe facturent la pipe moins cher que l'amour ? Parce que c'est nettement moins coûteux en énergie et que ça requiert moins de résistance à la douleur. Et pourtant, un matin, m'exécuter gratuitement, sans contrepartie, m'a semblé insupportable. Toutefois, toutes ces fois où je l'ai fait par convention, j'aurais largement préféré qu'à la fin on me laisse 20 balles sur la commode, au moins j'y aurais trouvé du sens. Je repense à cette amie, Laurence, qui me racontait que son compagnon exigeait d'elle une fellation tous les matins au réveil. Si elle ne satisfaisait pas son désir, il ne lui adressait plus la parole de la journée. Elle consentait à accomplir sa tâche en grande conviction en échange de la paix conjugale. Si seulement elle avait pu collecter, elle aussi, ses 20 balles à chaque fois, peut-être qu'aujourd'hui, elle et moi aurions de quoi nous payer un couvent pour nous retirer loin des hommes. Nous aurions de quoi fonder une communauté de femmes qui n'en peuvent plus de sucer et nous serions tellement nombreuses que nous pourrions créer notre propre micro-État avec notre propre drapeau, notre devise et notre hymne national. C'est donc ainsi que les choses ont débuté par cette longue grève de la fellation. Un beau matin, en comptant les jours de mon cycle, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait l'amour depuis 3 mois. Les 3 mois se sont changés en 6, puis en 9. Et ainsi de suite. Un mandat renouvelable, sans engagement à long terme, ni assurance de ce que ce sera à l'avenir. La grève de la pipe s'est tout naturellement prolongée en grève du coït, puis du sexe en général.
Waouh ! Alors on a ri, c'est pas drôle en
non,
fait.
Non, c'est pas drôle du tout.
Mais c'est Ovidie, hein, oui, et, ouais. Et sa façon de... Enfin, ta façon de lire ce qu'elle a écrit,
c'est clair et précis. Il n'y a pas de détour. Il y a ce côté un petit peu de langage trash, un peu brutal oui. aussi à la Virginie Despentes.
C'est ce que j'allais dire. Voilà.
Et
Virginie Despentes.
Et oui. C'est vrai que ce livre, alors là, aux éditions Point, il est vraiment tout petit. L'original était un petit peu plus épais. Je pense que les caractères étaient plus gros, tout simplement. Mais c'est un livre qu'on lit d'une traite. Hein. On a l'impression que c'est un seul soupir. Enfin, soupir, c'est pas le mot. Un seul coup de gueule, quoi. Voilà. Donc, je vous le conseille.
Merci beaucoup pour cette découverte et notamment pour nos auditeurs et nos auditrices et pour le rappel de qui est Ovidie, parce que ça c'est quand même très important. Je crois qu'il y a plein de gens qui connaissent le nom mais ils pensent juste à
Marc Dorcel. Voilà,
donc mais, c'est ça.
Son doctorat, elle l'a eu en quelle année ?
En 2020. Et je me suis renseignée. C'est un doctorat qui s'appelle « Peut-on se dire sans se trahir ?» Voilà, donc en sciences humaines et humanité. Donc ouais, récent, ouais.
D'accord.
Et elle est née en 80, donc elle a passé son doctorat, enfin en tout cas elle a soutenu à 40 ans.
Ouais.
Voilà.
Et donc ça fait combien de temps maintenant qu'elle est en grève ?
écoute, le livre, je crois qu'il est sorti en 2023, elle dit que ça fait 4 ans, donc si elle n'a pas arrêté aujourd'hui, ça fait 6.
Bon, il faut attendre le prochain pour savoir
si elle s'y est tenue.
Si elle s'y est tenue, si elle a trouvé d'autres moyens.
Elle dit bien que ça n'est pas ni un engagement, ni
oui,
un défi,
oui, bien sûr.
C'est en ce moment, c'est la grève.
C'est comme ça, voilà. Oui, c'est... mais alors bon...
Alors elle explique bien pourquoi, puis on se retrouve dans ses mots. Hein.
Oui. Mais bon, il y a vraiment effectivement les clichés de... Enfin, c'est pas un cliché, c'est faire sa liste de courses. Penser à sa liste de courses, penser... c'est vraiment l'histoire de l'homme qui si tu me suces pas le matin, je te parle pas de la journée.
Finalement,
ça a peut-être été ça la solution, ferme-la, quoi.
Il y a un peu le côté Enfin, la notion du viol conjugal derrière tout ça.
Tout à fait. Donc, bien sûr, c'est une contrainte.
Je sais plus si c'est réellement nommé comme ça dans le livre, il faudrait que je relise, mais... C'est un peu ce qui est évoqué quand même, quand le plaisir se situe que d'un côté et qu'on le fait pour faire plaisir à l'autre.
Complètement, c'est... Eh bien, merci.
Oui.
Tu voulais ajouter quelque chose,
non,
Alex ?
Non, du tout.
Eh bien, merci Valérie pour cette lecture très intéressante. Pauline, un très grand merci pour être venue nous raconter ton podcast, son origine, ce que tu y trouves, ce que les autres, ce que ça apporte aux autres. Enfin, tout ton témoignage était très riche.
Merci à toutes les trois.
Et puis, merci à nous
Merci à nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et nous nous retrouvons donc sur notre page Instagram et sur notre compte Instagram, je vais y arriver, sur notre page Facebook Histoire de Femmes. Et sinon, rendez-vous le prochain premier mercredi du mois. Donc, premier mercredi du mois d'avril. Et je n'ai pas vérifié sur mon calendrier. J'ai un dictionnaire, des dictionnaires, comme vous avez pu l'entendre au début de l'émission, mais pas de calendrier sous les yeux. À très bientôt. Guettez-nous sur les réseaux. Bonne soirée à tous. Ah oui, et le podcast dès demain, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast et sur le site de la radio Graffiti. Merci.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.